Demain soir à 18h30, une projection gratuite du film Intouchable en français, sous-titré en anglais, suivi d'un quiz. Plus d'infos à retrouver sur le site de la maison étudiante. Dans la matinale d'aujourd'hui, nous recevons Patrick Kohler, délégué général de l'UFISC. Antoine nous fera une revue de presse et Francesca nous parlera des défis des entreprises avec la transition écologique. Je vous présenterai le Flash Info et Garance nous présentera le groupe Krill qui vient présenter son nouvel album. Mais tout de suite, on retrouve Patricia Kohler qui répondra aux questions de PA. Qu'est-ce que tu... Je sais pas quoi répondre.
Alors ce soir du coup on aura Patricia Kohler donc, qui est la directrice générale de l'UFISC qui sera là du coup pour nous parler des coupes budgétaires, notamment il y a la culture. Voilà, on a actuellement les aléas du fauneur qui font que on a un petit décalage, mais normalement Patricia Kohler sera bien avec nous d'ici quelques instants. Elle est là ? Allô Patricia ? Vous nous entendez ? Ah. Patricia est là, mais je pense que on a un petit décalage. Bon, c'est un début d'émission qui commence difficilement, mais on va retomber sur nos pattes prochainement. Donc, comme je le disais, Patricia Kohler, déléguée générale de l'UFISC. On va parler de la coupe budgétaire liée à la culture par rapport aux intentions au vote du projet de loi. Sur le budget. Donc, il y aura pas mal de sujets qui vont être touchés, la culture notamment, les services civiques, les actualités récentes, le pass culture. Allô, Patricia Kohler ?
Oui, bonjour.
Ah, bonjour. Désolée pour ce début chaotique, mais vous nous entendez enfin. Enfin, on vous entend surtout. Je crois que vous nous entendiez avant. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends de très loin, mais je suis avec vous.
Ok, bon. Eh bien déjà, Patricia Kohler, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Car j'ai rapidement dit que vous étiez déléguée générale de l'UFISC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. Donc en effet, l'UFISC, sous cet acronyme, se cache l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est en fait un groupement, un espace collectif qui rassemble aujourd'hui 16 organisations. Donc ce sont des fédérations nationales, par exemple dans les arts de la rue, qui rassemblent des salles de musique actuelles, qui rassemblent des compagnies de marionnettes, ainsi que des réseaux plutôt de territoire. Donc on va aller de l'Île-de-France avec des lieux intermédiaires en région francilienne à des réseaux de musique actuelle, par exemple en région Centre-Val de Loire, ou encore des réseaux de spectacles d'art visuel à La Réunion. Okay. Et puis également un ensemble d'organisations qui sont parties prenantes du champ qu'on appelle du paritarisme, c'est-à-dire qui vont être dans le champ du dialogue social et représenter les structures, les entreprises du champ du spectacle vivant, notamment dans ce dialogue social. Et donc nous sommes un espace qui essaye de faire valoir la dimension d'économie sociale et solidaire, la dimension associative, des initiatives citoyennes qu'on trouve partout sur le terrain, qui sont dans le champ artistique et culturel et qui essayent de faire valoir une autre proposition, une forme alternative à la fois d'économie non lucrative, coopérative, ancrée sur les territoires, et puis aussi qui se battent pour faire valoir la diversité artistique et culturelle. Et on en a largement besoin aujourd'hui.
Oui, surtout quand on voit les prévisions sur les projets de loi sur l'aspect culturel, on se dit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent nous faire peur sur l'avenir de toutes ces professions liées au milieu de l'art de manière générale. Quelles sont les actualités très récentes en termes, enfin, les prévisions sur le projet de loi de vote du côté culturel ?
Alors, en effet, on est très alertés au niveau national sur les les prévisions pour les budgets du ministère de la Culture. Nous avons publié un communiqué il y a une petite dizaine de jours d'alerte justement sur la diversité artistique et culturelle, car nous dénoncions une baisse des moyens, des crédits du ministère de la Culture qui a été actée récemment sur ce début d'année au niveau du Sénat. Et qui a été d'ailleurs repris par la commission mixte paritaire qui, comme vous le savez, vient de voter le texte définitif. Et ce texte prévoit certaines coupes pour le budget culturel, notamment dans la création et pour les territoires, également sur l'audiovisuel public avec une baisse annoncée de 80 millions d'euros. Et c'est vrai que nous venions de rencontrer la ministre dans le cadre d'un grand conseil qui se tient sur le champ du spectacle. Okay. Et elle nous avait dit se battre pour le budget. Évidemment, elle est montée au créneau, mais on constate qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et qu'on n'est pas sur un équilibre et sur un maintien, sur une sanctuarisation du budget. Et c'est d'autant plus un coup dur pour nous que l'année dernière, en 2024, sur un décret du ministre de l'économie Bruno Le Maire, la culture, le budget du ministère avait déjà perdu 200 millions d'euros qui avaient été exigés sur 2024. Donc là, on est dans une forme de non-sanctuarisation des crédits pour la culture, alors qu'on connaît des situations très difficiles pour les associations et les structures non lucratives sur les territoires.
Oui, donc,
certains... donc on a une vraie baisse qui pourrait venir impacter les activités culturelles et notamment les structures les plus fragiles. Oui. C'est pour ça que nous, on a vraiment interpellé la ministre sur le fait de maintenir les budgets, mais aussi de défendre cette diversité en fléchant, en utilisant les financements d'abord pour protéger les structures les plus fragiles, cet écosystème dont vous faites partie d'ailleurs avec la Radio Campus, qui en fait essaime sur tous les territoires et qui permettent surtout une participation des personnes à la vie culturelle. C'est vraiment ce droit fondamental de participation à la vie artistique et culturelle, à la question de la création, à la question de la liberté d'expression qui nous semble véritablement nécessaire de pouvoir agir aujourd'hui.
Donc certains se battent pour garder cette... vous disiez la ministre qui se battait, enfin en tout cas qui voulait, souhaitait garder ces montants en termes d'argent pour la culture, mais certains se battent aussi contre pour diminuer tout ça. Et quel type de personnes sont les plus concernées par ces coupes budgétaires ? Parce que c'est beaucoup des jeunes
qui s'investissent. Au niveau national, la difficulté, par exemple, aujourd'hui, c'est le fait que les structures ont aussi eu, avec l'inflation ou avec un certain nombre de réglementations, des charges et donc des dépenses qui ont augmenté. Comme pour tous les Français et les Françaises aujourd'hui. Et évidemment, le maintien d'un budget ne prend pas en compte cette inflation. Donc déjà, en vérité, on est sur plutôt des logiques de baisse des moyens. D'accord. Et par ailleurs, nous, le risque qu'on identifie, c'est que ces budgets, et ça a été quelque part une des formes de déclaration déjà de la ministre, aillent à la sauvegarde des grosses institutions. Elle a monté notamment un fonds d'urgence doté à peu près de 40 millions d'euros puisqu'il a été abondé par les sénateurs et les sénatrices pour venir soutenir les structures dites d'intérêt national.
D'accord.
Et nous, notre crainte, c'est que justement, on aille plutôt vers une logique de concentration des moyens vers les plus grosses institutions qui ont besoin, on ne nie pas le besoin, mais qui sont quand même plus solides pour résister à la crise actuelle. Alors D'accord. que l'ensemble des petites compagnies, des petites structures, des associations sur le terrain, elles subissent, on y reviendra peut-être, la question du désengagement des collectivités territoriales et en plus ont du mal à faire face aux nouveaux besoins et aux dépenses qu'elles ont cumulées ces dernières années. Donc on défend vraiment un fonds d'urgence, non pas pour la sauvegarde, mais plutôt pour faire valoir les urgences culturelles aujourd'hui. Et pour nous, ces urgences culturelles, c'est les droits fondamentaux des personnes, c'est les enjeux d'ouverture et de partage face au repli et à la crainte qu'on voit sur les territoires de la diversité culturelle. C'est aussi un enjeu de solidarité face aux inégalités sociales. Et puis, évidemment, c'est aussi un enjeu, et on pense que la culture a beaucoup son mot à dire actuellement, pour penser des nouveaux récits, penser des imaginaires qui viennent des territoires, qui viennent des personnes,
ça, justement...
et que ça nous permette de construire un nouvel horizon politique.
Ok. Et justement, sous cette question sur le fonds d'urgence et l'adversité des plus petites actions qui ont moins de subventions, on aura l'occasion d'y revenir juste après la pause musicale. On va faire tout de suite.
Oui, d'accord. On va écouter Fung Sixties.
We are a girl, we are a fallen tree, we are a boy, we are a swollen sea, we are a man, we are an ocean, we are a woman, we are an ocean. Our drinks keep spilling again, our lungs keep singing again.
C'était 560s sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et on reprend du coup la suite de cet entretien en espérant que, que vous êtes toujours là, Patricia.
Oui.
Ok, bah, merci d'être toujours là. Donc je rappelle Patricia Koller qui est directrice générale de l'UFISC. On en parlait à l'instant des restrictions budgétaires qui seraient... appliquées au milieu de l'art, de la création, de la culture de manière plus générale. Vous nous parlez, avant la pause musicale, d'un fonds d'urgence qui garantirait justement ces droits fondamentaux à la culture, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce fonds d'urgence ? À qui est destiné ? Comment il serait calculé, etc.
Alors, pour le moment, on n'a pas encore tous les éléments, puisque c'est un fonds d'urgence qui a été proposé par Rachida Dati très récemment, lors des dernières discussions au Sénat.
D'accord.
Sur le projet de loi de finances. Donc, on a des premières intentions qu'elle nous a donnés et qui portent plutôt sur une logique de sauvegarde. C'est vrai que nous espérons, des discussions que nous avons avec le ministère de la Culture et avec le cabinet de la ministre, pouvoir faire évoluer ces éléments vers un fonds d'urgence véritablement qui puisse s'adresser à l'ensemble de la diversité des structures et justement plutôt pour favoriser ces formes de participation des personnes aujourd'hui extrêmement nécessaires à la vie artistique et culturelle.
Et notamment, tout à l'heure, vous parliez de l'ESS, donc l'économie sociale et circulaire, sociale et solidaire, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça.
Oui, tout
ça,
à
du
fait.
Coup, c'est souvent, ça s'attribue, enfin, l'ESS, ça concerne aussi beaucoup des jeunes structures qui veulent développer des projets, notamment par des bourses, des appels à projets, etc. Est-ce que dans l'état actuel des choses, vous voyez toujours une continuité à ces bourses qui seraient attribuées à des jeunes projets?
Alors c'est là, tout en effet, vous mettez le point sur une des difficultés qui pourraient apparaître dans les prochaines années, déjà directement en 2025 et par la suite. C'est en effet toute cette dynamique plutôt des jeunes projets, de ceux qui se lancent, de ceux qui arrivent avec de nouvelles initiatives, de nouveaux collectifs, que ce soit des festivals, que ce soit des équipes artistiques, des collectifs. Et c'est vrai que ben, ils portent une fragilité particulière. Et aujourd'hui, on voit malheureusement des restrictions se faire, notamment, vous parliez des appels à projets, qui sont souvent mis en place par les collectivités territoriales. On voit de plus en plus des désengagements de collectivités, que ce soit au niveau des régions ou des départements, qui annoncent des coupes, des baisses parfois très importantes. On pourra revenir sur le cas notamment de Pays de la Loire, où s'est jouée vraiment une bataille très forte. Mais plus largement, on voit que le contexte est assez sombre avec ces diminutions de crédit des collectivités. Et le risque, en effet, c'est qu'ils soient portés non pas par, je dirais, voilà, les structures peut-être déjà présentes, assez solides, dans une certaine forme d'installation, mais plutôt par des écosystèmes un peu émergents qui risquent d'assécher, en fait, un peu le tissu associatif et ce tissu de dynamisme et de renouvellement par la jeunesse.
Surtout que, bah, justement, vous parlez de la jeunesse, elle a tout un, c'est le dernier mot. Les dernières actualités aussi qu'on a pu voir, qui touchent du coup près de 6000 personnes en février, c'est les services civiques qui sont également un petit peu mis sur la sellette pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au vote officiellement en tout cas, jusqu'au vote du projet de loi sur le budget. Merci. Voilà. A priori, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est que ce soit jusqu'au vote, mais il y a des peurs que ça soit prolongé et qu'on ne retrouve pas de la même manière, en tout cas, ce système-là de service civique. Est-ce que vous avez déjà des craintes aussi par rapport à ça? Comment est-ce que vous voyez la suite de cette
aspect-là? Oui, ben, tout à fait. C'est vrai que dès que l'information a paru, d'autant qu'elle a apparu avec très peu d'anticipation, hein, puisque on a su 2 jours avant que tous les contrats signés après le 1er février ne pourraient pas être honorés. Donc, ça a été une information qu'on a reçue le 30 janvier pour le 1er février. Donc, c'était vraiment très court et c'était très compliqué au début pour même savoir si les services civiques qui avaient été signés pour le début janvier pourraient être honorés. Donc, bon, depuis, on sait que l'arbitrage a été rendu en ce sens. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une impréparation et d'une incompréhension qui est ressentie par les structures qui accueillent ces services civiques. Parce qu'évidemment, on les met dans une situation intenable lorsqu'elles ont commencé des démarches et qu'il y a déjà des premiers engagements qui ont été mis en place. Donc oui, on a très peur. On a très peur de ce que ça peut donner sur la capacité à continuer cet accompagnement des jeunes sur les missions de service civique qui sont très nombreuses dans le champ culturel. On a aussi très peur plus largement pour la question de, on le disait tout à l'heure, de l'insertion professionnelle, des aides à l'emploi, parce qu'il y a la question des services civiques, mais il y a aussi l'engagement des jeunes Dans les emplois. Et c'est vrai que on a peur d'un plan social sur l'emploi avec notamment les coupes des collectivités. Hein, pour, je vous donnais un exemple tout à l'heure, Pays de la Loire, c'est 70% du budget culture qui a été sacrifié par la présidente de région pour 2025. Donc, c'est des formes de licenciement direct. Et donc, qui dit plan social dit aussi incapacité à créer des nouveaux emplois, des nouvelles insertions pour la jeunesse. Donc, on est vraiment extrêmement, enfin, c'est plus que préoccupé. Là, on est mobilisé et on est en train de s'organiser entre organisations, syndicats, réseaux pour manifester, pour faire valoir nos revendications et pour aussi convaincre les élus locaux, convaincre les partenaires publics, mais aussi les partenaires associatifs et tous les habitants qui sont autour des associations, que l'heure est grave et qu'il va falloir vraiment se mobiliser.
Et du coup, là, ça concerne à la fois les services civiques, vous disiez l'aide à l'insertion à l'emploi, etc. Mais juste avant, l'âge collège, lycée, tout ce qui est passe culture, qui était une aide qui n'est pas si ancienne en plus, qui a 5 ans à peine, il me semble. Et ça aussi, a priori, ce serait compromis. Du coup, les établissements, ils ne comprennent pas non plus ce retournement de situation et ça compromet aussi du coup l'accès des jeunes à la culture. Quelles sont les réactions qui ont été faites de la part des établissements? Est-ce qu'il y a un petit délai d'adaptation ou est-ce que c'est vraiment tout de suite qu'ils sont confrontés à ça?
Là aussi, encore une fois, aucune anticipation et les structures ont reçu une information leur demandant leur conseillant de déposer au plus vite leur dossier sur la plateforme pour le Pass Culture dans sa version collective, hein, puisque là on parle plutôt des projets d'éducation artistique et culturelle, d'action culturelle qui sont portés par des structures culturelles et en effet des établissements, collèges, lycées. Et on leur a demandé de faire ça en 2 jours parce qu'il y avait un plafond sur la dépense au niveau national qui a été émis. Hein, globalement, on sait qu'il y a déjà 40 millions d'euros qui sont engagés pour l'année 2025 et il y a une crainte en fait de ne pas pouvoir aller au-delà et de compromettre en fait la nouvelle saison scolaire à partir d'automne 2025, donc l'année 2025-2026. Donc blocage en effet des dépenses et là ça met vraiment toutes les structures en difficulté dans les projets qui ont été montés évidemment avec les professeurs. Donc on va avoir aussi ici une large mobilisation, il y a des communiqués à paraître et toutes les, comment dire, les secteurs cinéma, spectacle, arts visuels se mettent un peu en commun pour réfléchir déjà sur en plus un dispositif qui ne nous convenait pas totalement, hein, le Pass Culture. C'est vrai que c'était déjà une logique de plateformisation qui était déjà un peu génératrice de problématiques dans le champ associatif, qui brisait un peu les relations passées entre les structures de terrain et les collèges et les lycées.
D'autant plus que tout ce qui est projet porté grâce à ces passes culture, c'était à la fois de l'initiative des établissements, mais ça permettait aussi d'impliquer les jeunes, les élèves, dans des projets plus sociétaux, plus larges que simplement leur classe. Ce n'était pas simplement des projets scolaires. Donc, est-ce qu'il y a d'autres structures qui existent pour accompagner les étudiants, même les professeurs dans la gestion de ces projets-là?
Alors, il y a d'autres, il y a d'autres financements en effet existants pour accompagner les formes d'éducation artistique et culturelle. On a beaucoup les départements qui se sont mobilisés sur cette question du financement de l'éducation artistique et culturelle. C'est aussi pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme parce que, comme vous le savez, les départements ont des grosses contraintes et des engagements en termes sociaux. Dans un moment, on voit monter les inégalités sociales de manière très forte et notamment pour les étudiants et les jeunes. Donc, c'est vrai que de fait, il peut y avoir des restrictions qui sont faites sur le champ culture avec des arbitrages. Et on voit bien que la problématique, c'est que tout se tient, comme vous le dites fort bien. C'est que, évidemment, il y a besoin du logement, il y a besoin de l'alimentation. Mais si on fait disparaître la capacité des personnes à monter des projets culturels, à s'inscrire dans un parcours artistique, on aura aussi raté un des enjeux clés aujourd'hui pour essayer de construire notre vivre ensemble, pour penser un peu l'avenir.
pour peut-être pour finir cet entretien, parce que là, le temps file, je vois. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous aimeriez dire, une mobilisation qui est en cours, quelque chose auquel on peut se rattacher pour espérer faire changer un petit peu cette décision, ces coupes budgétaires?
Alors, en effet, on a plusieurs mobilisations là qui se lancent, à la fois, comme on le disait, auprès des collectivités territoriales. Donc, il y a tout un processus qui va être mis en œuvre. Et puis, de la même manière, par rapport au Pass Culture, donc, j'invite les auditeurs à rester attentifs, pourquoi pas revenir vers les sites Internet. Mais aussi, je pense que la Fédération Radio Campus avait signé les derniers communiqués. Et je pense que les radios seront aussi très mobilisés sur ces questions-là. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a aussi des réflexions à mener de manière interassociative, c'est-à-dire pas seulement dans le champ culture, mais avec d'autres associations. Du champ du social, du champ de la transition écologique, du champ de l'économie circulaire, du champ de l'alimentation, etc. Et que là aussi, on va essayer de porter là sur. On a eu déjà une première réunion aujourd'hui. On va essayer de porter un message et une campagne politique pour défendre les initiatives citoyennes dans les prochains mois.
Merci Patricia Collère d'avoir été avec nous ce soir dans des conditions qui ont été intéressantes. Au final, l'entretien s'est très bien passé. Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec vous de toutes ces questions. Et merci à vous.
Merci Patricia Collère, merci Alice. Et tout de suite, Francesca va nous parler des défis des entreprises et de la transition écologique.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Francesca.
Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler donc management et organisation, comme quoi la transition écologique et la transformation technologique est un défi sans précédent pour les entreprises. Et oui, le management fait face aux plus grands défis de l'histoire. On peut même parler donc de deux révolutions, la transition écologique et la transformation technologique liée à l'intelligence artificielle. Ces deux révolutions ne sont pas des tendances passagères, elles touchent même le cœur de notre société, de nos entreprises et de nos façons de travailler. Un double défi donc. D'un côté, la transition écologique. Comme on le sait tous, le changement climatique n'est pas une prévision lointaine. Il est là, il est visible, il est tangible. Et selon l'ADME, 70% des entreprises reconnaissent que leur activité sera impactée par les bouleversements climatiques. Pourtant, seulement 20% ont mis en place des stratégies concrètes d'adaptation. Et pourquoi ? Parce que cela demande bien plus que des ajustements. Cela nécessite de revoir les modèles économiques, leur mode opératoire et surtout leur approche managériale. Et au vu du grand changement, ceux qui sont encore au management traditionnel vont vite devoir revoir leurs méthodes pour bien en accompagner leurs équipes. De l'autre côté, la transformation technologique portée par l'intelligence artificielle. Selon McKinsey, d'ici 2030, 30% des compétences actuelles seront obsolètes. L'IA transforme déjà la façon dont nous prenons les décisions, dont nous communiquons et même la manière dont nous pensons le travail, puisque l'automatisation de certaines tâches sont déjà en marche. Cette accélération encore bouleverse les repères traditionnels du management. Bien sûr, quand il y a changement, il y a d'un côté les entreprises, la hiérarchie, mais nous avons aussi les acteurs principaux, les collaborateurs, les salariés, eux, ils ont des attentes. Compléter leurs compétences sur ces sujets, évidemment, ils veulent une vision claire de l'implication des organisations, de leur entreprise, la transparence du chemin qui va mener à cette vision. Et la hiérarchie doit être au service des salariés plus que jamais. Passer de la hiérarchie rigide à l'accompagnement actif.
Eh bien, merci Francesca, et on écoute tout de suite Lil Nas X, Light Again. Two in, two up, back ends, booed up, look up, I'm flying, yeah, I'm free now, see now, society's tied me, release now, fuck crazy, I'm finna go see now, big style, big deals, vitamin water, that's a big one, six mil, coach came to me like I'm D1, like Will, got some team now, so the flight out, only got time for a night out, so tell me what you want from me, we ain't getting
punishment throw. J. Cole said it's memes and mills, but I'm the king and adjust it all. Niggas really wanna wipe me down, I got more patience than a hospital. Swear these niggas better beef with me, they never beef with life's obstacles. I'm bad as a bitch with a bone out. I'm way too toned to be toned down. My dick too big, so I'm cocky. Hit him from the back while I'm twiddling my phone out. Got an Eminem deal, but I'm Hershey's 6'2", dark skinned nigga with a purpose. Left a voicemail on my phone last night to myself saying, little nigga, you deserve this, yo. You know I gotta catch my flight. You know I gotta reach new heights again. You know we run it up at night. You know we only get one life for this. Fuck all the night, fuck all the night. Fuck all the night, hell of a life. Fuck all the night, fuck all the night. Fuck all the night, hell of a life.
Lil Nas X, Light Again, vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, Canal Campus sur les DAB et également sur radiocampusparis.org. Et tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Donald Trump reçoit mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche depuis son retour au pouvoir dans un moment délicat de reprise des négociations sur Gaza. La visite du chef du gouvernement israélien coïncide avec la reprise cette semaine des négociations par médiateur interposé entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du cessez-le-feu. Celle-ci doit permettre la libération des derniers otages retenus dans la bande de Gaza et amener la fin définitive de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Et puis, les Alpes autrichiennes accueillent les mondiaux du ski alpin jusqu'au 16 février. À l'occasion de cette 48e édition qui se déroule à Salbach, de nombreuses épreuves sont au programme. 11 titres seront décernés et une nouvelle épreuve verra le jour, le combiné par équipe femmes et hommes. Le Français Clément Noël sera à suivre en slalom après ses 4 victoires en 9 slaloms disputés en Coupe du Monde cette saison. Le champion olympique de Pékin 2022 est un des grands favoris au sacre mondial. Toutes les épreuves de ces championnats du monde de ski alpin seront diffusées en direct sur Eurosport et la chaîne Équipe. Une tragédie a relancé l'alerte sur les défis dangereux des réseaux sociaux. Une fille de 10 ans est décédée après avoir participé au Paracétamol Challenge, un défi sur TikTok qui encourage les adolescents à ingérer un maximum de paracétamol jusqu'à nécessiter une hospitalisation. Ce phénomène apparu aux États-Unis en 2023 s'est depuis propagé en Europe, notamment en Belgique et en France. En France, l'inspection académique du Calvados a pris la menace au sérieux et a envoyé un message d'alerte aux parents d'élèves pour les sensibiliser aux dangers de cette pratique. Cette ingestion excessive peut entraîner des dommages irréversibles au foie. Alors que les viraux ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux, celui-ci, en exploitant un médicament aussi courant que dangereux, soulève à nouveau la question de la régulation des contenus en ligne et de la sensibilisation des jeunes au risque de ces pratiques extrêmes. Et enfin, des dégradations importantes ont été commises à la fac de Rennes 2 lors de la mobilisation contre l'austérité imposée aux établissements d'enseignement supérieur. Elle continue à faire la loi. À l'université Rennes 2, l'assemblée générale autoproclamée des étudiants en lutte ayant voté le blocus de la fac de sciences humaines, un moyen de se mobiliser pour protester contre l'austérité imposée aux établissements d'enseignement supérieur par l'État. Les accès au campus de Villejean avaient été barrés et l'ensemble des cours avaient dû être annulés la semaine dernière. Vendredi soir, le déblocage de l'université avait finalement été voté par l'Assemblée Générale, ouvrant la voie à une reprise des cours. Sauf que ce n'est pas le cas. L'occupation de certains amphithéâtres et lieux de cours a laissé des traces indélébiles qu'il va falloir nettoyer. La fac annonce plusieurs semaines de travaux pour tout remettre en état. On ignore pour l'heure quand les étudiants et le personnel pourront reprendre les cours, mais ce ne sera pas avant lundi 10 février.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite, c'est le Zoom. Ce soir, dans le Zoom, nous recevons le groupe Krill et c'est Garance qui nous les présente. Bonjour Garance.
Bonsoir. Alors oui, dans le Zoom d'aujourd'hui, nous accueillons les musiciens du groupe Krill à l'occasion de la sortie de leur deuxième album « Listen to the Whale » le 7 février prochain. Donc le trio parisien est composé de la voix de Clar, franco-brésilien formé aux USA, rythmé par les percussions de Richard, batteur franco-catalan, et orchestré par les instruments d'Eliott, réalisateur et ingénieur du son. Bonsoir à tous les trois et bienvenue dans les studios de Radio Campus Paris. Donc alors, avant qu'on parle de la sortie de votre dernier album, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours à tous les trois. Quelle place la musique occupait dans votre enfance, votre adolescence ? D'où ça vient, cette passion ?
Donc dans notre enfance et dans notre adolescence,
vous faisiez partie d'une famille de musiciens? Non. Est-ce que c'était
En fait, on a eu trois enfances différentes.
Oui.
Donc moi, non, j'avais pas une famille de musiciens. Claire, oui, on avait une.
Okay. Oui. Moi, j'ai eu j'ai une mère musicienne et chanteuse qui m'a beaucoup fait rêver plus jeune. Et je pense que c'est elle qui m'a lancé dans ce bain-là, quoi.
Moi non plus, c'était pas une famille de musiciens, mais il se trouve qu'on a tous les trois fait des études de musique pendant notre enfance, notre adolescence, sans forcément toujours vouloir en faire notre métier. Par exemple, Richard, il a fait de la biologie pendant très longtemps. Et puis, on s'est retrouvés dans nos études musicales, en fait, tous les trois au conservatoire. Et on a direct matché déjà sur des influences musicales. Donc, on écoute beaucoup de rock alternatif, de musique anglo-saxonne. Et puis on a matché aussi, je disais, Richard fait de la biologie, on s'est bien entendu sur notre admiration pour le vivant, pour la nature, pour les choses infiniment grandes, infiniment petites, dans une espèce d'admiration qu'on partageait tous les trois.
Et alors à quel moment naît Krill justement ?
Krill naît pendant nos études, un soir où Richard et moi on rêve de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et dans ces contrastes-là, on se retrouve à vouloir exprimer ces choses-là en musique. Eliott nous a rejoints dans cette aventure folle.
Donc ça, c'était en 2014, quand vous êtes diplômé du conservatoire ?
Est-ce qu'on était diplômé en 2014 ?
Non, en 2014, je passais le bac, donc...
On rencontrait, mais on ne faisait pas encore le groupe. Commençait à étudier, à collaborer, à échanger sur les sujets qu'on avait en commun et...
Okay. En fait, krill, ça naît sur le nom d'une espèce animale, le krill,
ouais.
Qui est l'espèce qui est la plus grosse biomasse animale de notre planète. Je ne sais pas si tu te rends compte, Garance.
Oui, ouais.
Le krill, c'est l'espèce où si tu additionnes le poids de tous les individus qui existent, c'est ce qui pèse le plus lourd au monde, sur Terre.
Alors qu'un individu doit peser 2 grammes.
Voilà.
Et c'est juste qu'ils sont très nombreux.
Je dirais même moins.
Et donc, pour rentrer dans les détails, le krill, c'est des crustacés qui vivent dans tous les océans du monde et qui se concentrent en essaims de plusieurs milliards d'individus. Et ça nous a beaucoup touché, ce truc de l'individu fondu dans une énorme masse, juste en tant qu'être humain et après en tant qu'artiste, parce que c'est un peu ce qui se passe quand tu décides de faire un projet musical. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas ce qui va, toi, te sortir ou pas du lot, ou tu te poses ta question de dans quel courant t'es inscrit. Donc tout ça, ça nous faisait faire des parallèles super chouettes et on a choisi ce nom-là.
Ok, donc vous rajoutez un « i » quand même.
On rajoute un « i » pour le référencement Google.
Et donc ensuite, vous sortez votre premier album en octobre 2020, ça ?
Oui, exactement.
Et après, vous partez en tournée, donc vous ferez votre... concert de release en 2021 et dans plusieurs gros festivals comme Solid Days.
Ouais.
Et donc votre album Listen to the Whale qui sort le 7 février prochain raconte notamment les contrastes de nos vies minuscules et de l'immensité du vivant, comme tu disais, de ce qu'on admire en même temps qu'on le détruit, des relations amoureuses comme la relation paradoxale de l'humanité à son environnement. La fragilité de la confiance en l'autre et en soi-même. Et si vous deviez me donner 3 mots pour décrire votre univers musical, vous diriez quoi ? Ou peut-être plus que 3 mots.
Un mot chacun ?
Allez.
Vas-y.
Qui commence ?
Existentiel.
On fait un son existentiel. Ouais. Ok, ouais. Moi, j'aimerais bien que tu mettes une basse existentielle sur ce morceau, s'il te plaît. Claire.
Je te mets la basse de Escape This Life, c'est une
elle
basse
est hyper
existentielle.
C'est vrai, elle est existentielle.
Planant.
Moi, j'en ai un.
Mais attends, tu fais pas partie du groupe.
Si, si, moi, je veux aussi. Moi, j'irais doux comme ça, mais c'est pas. C'est... Aigre doux.
Super.
Ça, c'est bien ça.
Et toi, c'est quoi ton mot?
Moi, c'était aquatique.
Ah oui, ouais. Ça convient très bien.
Parce que justement, j'allais venir au chant de la baleine. Pourquoi le chant de la baleine? Parce que ça a un lien, non, avec krill, justement.
Bah, la baleine est le principal prédateur du krill.
Voilà.
mais le krill est la base de la chaîne alimentaire des océans. Donc, le krill est malheureusement prédaté par beaucoup de gens. Enfin, beaucoup d'êtres.
Dont les humains. Hein.
Dont les humains, oui, oui.
Qui empêchent beaucoup.
Oui. Il y a des... Quoi, comment ça s'appelle, les gros bateaux qui pêchent du krill? Les krilliers?
Je sais pas.
Ok, bah, en tout cas, il y en a.
Des gros krilliers.
Et qui font de l'huile de krill pour que les vieilles personnes aient un beau teint de peau.
Oui, okay. Beaucoup d'oméga 3.
Oui, des oméga 3.
Et c'est quoi cette nostalgie pré-apocalyptique dont parle votre titre Fucking Up My Life?
Bonne question. La nostalgie est pré-apocalyptique, je dirais qu'elle est. C'est un peu quelque chose qui pourrait définir notre album parce que c'est. Un album qui a été écrit dans ce constat qui est que nous vivons un moment charnier de notre
charnière.
Vie humaine.
Parce que charnier, c'est un tas de corps.
Merde. Un tas de krill.
Vas-y,
mais c'est vrai, je sais pas comment ça s'accorde.
Un moment charnière, oui, c'est vrai. Ouais. Il a raison.
Okay.
Parce que pas un moment charnier, quelle horreur. C'est un moment charnière de l'humanité qui est que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme à cause d'un cataclysme qui est proche. Et malgré ça, on est là. On parle à la radio avec toi et on sourit, on va au resto, on fait de la musique et des concerts. Et donc c'est un peu ce moment-là qui plus tard sera nostalgique, tu vois. On vit là des beaux moments. Qui appelleront une nostalgie au moment où on pourra plus les vivre. Après,
c'est l'anticipation
sera peut-être pas
de la nostalgie.
Vivant.
C'est ça. Ouais. En fait, une des images qu'on avait, c'est d'imaginer un enfant sur une plage qui est en train de faire un château de cartes. Et lui, son monde, il est trop, trop génial. Et il est concentré sur un tout petit truc fragile. Et en fait, derrière lui, il y a un énorme tsunami. Et ça l'empêche pas de vivre ce moment. Et on trouve ça fou, en fait, la capacité de l'humain à arriver à être insouciant malgré... des news parfois horribles quand on se lève, qu'on écoute la radio ou des choses qui vont nous abattre en théorie, mais on arrive à prendre le petit-déj, quoi.
Et du coup, est-ce que parce que je pense au clip de Replay, un de vos sons, est-ce que finalement le passé, ça permet de se réfugier? Enfin, est-ce que tu parlais de l'insouciance? Est-ce qu'on peut encore être insouciant aujourd'hui, vraiment?
Ouais.
Je pense que c'est même un devoir, peut-être, de aimer vivre. Lutter pour vivre heureux, on peut, je pense. Qu'est-ce que t'en dis, toi?
Oui, je pense qu'il faut carrément, mais je pense que c'est deux choses qui cohabitent.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Avoir conscience.
Avoir conscience et avoir insouciance.
Du danger. Ouais, et cultiver la joie de.
Le Replay, en fait, il parle du passé en parlant de capsule de mémoire et en disant j'efface tout ce qui me fait chier quand je regarde mon passé.
Ouais.
Donc on imaginait quelqu'un dans un vaisseau spatial avec des disques durs de tout son cerveau et il est en train de dépasser le moment où il y a eu des cataclysmes écologiques, des séparations amoureuses, des trucs très durs, et il regarde les moments cools de son existence. Et donc ça, c'est un peu une nostalgie pré-apocalyptique d'écrire un morceau là-dessus en se disant « bon, un jour, ça sera peut-être beaucoup plus dur, mais on aura kiffé ».
Et est-ce que écrire, du coup, là, on est en train de... Justement, on revient sur le mot existentiel. Est-ce que écrire, composer, c'est une manière de réfléchir avec plus de distance ou plus d'insouciance
Je sais pas si on met de la distance quand on écrit. Qu'en dites-vous, les amis?
Bah, quand on écrit, on prend une photo d'un moment.
Ouais.
Oui.
Je crois que le moment où on prend du recul et où on comprend le concept de notre album, c'est le moment où on n'est pas en train de le composer, mais on est en train d'en parler à table ou le soir ou
après
qu'on l'a écouté avec un verre de vin ou un truc comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est des réflexions qui nous suivent dans plein de moments de vie, des trajets de voiture ou des trucs comme ça où on échange sur tout ce dont on vient de parler, tous ces trucs existentiels dont on vient de parler. Et c'est là où on s'est dit, waouh, notre album, il parle de plein de trucs sans recul. Donc le fameux petit château de cartes dont a parlé Elliot, donc ma relation amoureuse toxique ou le truc qui nous travaille. Et en fait, au final, on ne se rend pas compte, mais en tâche de fond, il y a tout un témoignage d'une époque. Et c'est ce truc dont on parle aussi de nostalgie pré-apocalyptique.
Alors malheureusement, l'interview touche à sa fin. J'aimerais revenir sur vos prochaines actualités. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ?
Donc on sera en concert le 7 février à l'occasion de la sortie de notre album Au hasard ludique. Il reste quelques places, il faut se ruer dessus. Après ça, 7 jours après, donc le 14, on est en première partie de Jean-Louis Aubert sur la tournée des Zénith et Arena de Jean-Louis qui durera toute l'année 2025. Donc on fera 40 dates avec lui. Peut-être qu'on verra l'un de vous sur le chemin, qui sait.
On sort donc un album le 7 février. C'est un 10 titres qui sort sur les plateformes. Et on sort aussi un vinyle et un CD qui, eux, auront 14 titres. Donc il y a 4 versions qui sont nulle part à découvrir quand on prend l'objet du vinyle. Et cet objet du vinyle, quand on regarde la pochette, on a la même que tout le monde. Et c'est ces trois garçons de Krill qui sont en train de boire le thé sur une plage très bleue. Et quand on retourne le vinyle, en fait, on voit une énorme baleine qui est échouée sur la même plage. Et c'est ça, Listen to the Whale, c'est l'énorme baleine échouée où tu es en train de prendre le thé, tu vis un moment insouciant, mais il y a quelque chose de grave ou d'inquiétant qui te guette.
Bah, merci beaucoup. Et tout de suite, on écoute Everybody Word You Say. Every Word You Say. We are snow.
C'est écrit Every Word You Say et nous terminons l'émission avec Antoine qui nous fait une revue de presse. Bonjour Antoine.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Mardi 4 février 2025, on revient aujourd'hui sur ce qu'il ne fallait pas rater à la une des hebdomadaires français. Et on commence cette revue de presse du mardi 4 février par la une du quotidien Libération qui revient ce matin sur les mesures de Donald Trump touchant les personnes transgenres. Touchant plus de 2 millions de personnes aux États-Unis, les mesures du nouveau locataire du bureau ovale assomment d'un bon coup le mouvement transgenre et accentuent à pleine vitesse le délire transphobe dans lequel se lance Donald Trump. En à peine 2 semaines et en adoptant de nombreuses mesures, l'administration Trump a décidé de lancer sa croisade et son ère de transition de marginalisation contre les personnes transgenres. Déremboursement des transitions des mineurs, militaires transgenres bannis de l'armée ou encore la mention X supprimée des passeports, Libération rappelle ce matin les folies du nouveau président américain. La une de Libé alerte aussi sur les conséquences que pourraient avoir ces mesures sur les personnes transgenres en France et qui pourraient une nouvelle fois fracturer l'opinion commune sur le sujet d'identité nationale. Autrement dit, du pain béni pour les partis populistes qui saluent la croisade contre le wokisme. Le journal Le Figaro a quant à lui décidé de mettre en une ce mardi 24 février la croustillante actu politique française. De nouveaux articles 49 alinéa 3 de la Constitution ont été actionnés par François Bayrou pour faire adopter les textes budgétaires. Alors on joue au jeu de qui censure, qui ne censure pas à l'Assemblée. 2 motions de censure ont immédiatement été déposées de la part du groupe de la France Insoumise, mais un gouvernement Bayrou qui devrait rester en place grâce à la non-censure du groupe socialiste. Une nouvelle fracture au sein de la gauche qui n'a pas fini de faire débat au sein du nouveau Front Populaire. En titre du Figaro ce mardi, Retailleau face au dossier brûlant de l'islam en France. En effet, le quotidien a rappelé à ses lecteurs la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les représentants du culte musulman. Alors que le culte musulman est plongé depuis plusieurs années dans une crise multifactorielle, le ministre de l'Intérieur s'attaque au défi épineux de sa réorganisation et de sa structuration au sein de l'Hexagone. Ce mardi 4 février secoue aussi les quotidiens économiques avec les annonces de Donald Trump sur l'augmentation des frais de douane pour de nombreux pays dans le viseur du président américain. Le Figaro Économie ou les Échos soulignent ce mardi matin la menace de guerre commerciale dans laquelle s'est lancé les États-Unis à coup d'augmentation des frais de douane pour le Canada, le Mexique et la Chine. Prochain adversaire de Donald Trump, l'Union Européenne se prépare à la riposte, même si les principales bourses ont chuté depuis le début de la semaine. Et oui, on termine cette revue de presse avec l'hebdomadaire parisien qui a choisi de mettre en une ce matin une enquête de l'Institut Gustave Roussy concernant le nombre de tumeurs digestives qui explosent chez les moins de 50 ans. En cette journée mondiale contre le cancer, la rédaction du Parisien a rappelé le fait que chaque année, environ 180 000 personnes décèdent du cancer, ce qui en fait la cause de mortalité la plus importante en France. Un article avec d'autant plus d'importance puisqu'on apprend grâce à l'enquête que les tumeurs digestives touchent de plus en plus de personnes chez les moins de 50 ans. Parmi les suspects qui pourraient être responsables de cette augmentation importante, la pollution et l'alimentation. Une nouvelle qui alerterait donc les jeunes à faire attention à leur alimentation, mais également à leur action pour réduire cette pollution.
Et merci Antoine, c'est la fin de cette matinale. Merci à PA, merci à Francesca, merci à Krill pour leur venue, ainsi qu'à Garance, et bien entendu, merci à Antoine. Merci à Alice pour la coordination de cette matinale. Et tout de suite, on retrouve le lobby sur Radio Campus Paris. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.